Salut à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Mes Plus Forts consacré au Charabia Festival de Reims. Mes Plus Forts, c'est chaque semaine votre magazine musical régional à Châlons-en-Champagne sur Radio Mono, à Reims sur RJR et Radio Primitive et à Troyes sur Radio Campus 3. Le Charabia Festival avait lieu à Reims cette année du 19 au 29 novembre dans plusieurs lieux. La cartonnerie, le manège, l'opéra, la maison commune du chemin vert. Cette année, le festival s'est ouvert au stand-up avec Vincent De Dienne à l'opéra de Reims à guichet fermé. Et parmi les groupes et artistes programmé, il y avait Stéphane Echer, Dionysos, Clara Isé, Alyosha Schneider, MPL ou encore Zamdan. Le Charabia Festival, c'est le rendez-vous des mots et des oreilles curieuses sur une idée de Barcela. Avec des rendez-vous jeunes publics avec Monsieur Lune, des actions culturelles en collège avec KKC Orchestra et Sans Nom, et un week-end littéraire avec une grande dictée et des moments partagés avec cette année entre autres Jeanne Chéral, J.P. Nataf, Gilles Kaplan, Florent Marché, David Lafort et Charles Berberian. Notre reporter Jean-Luc a eu l'occasion de rencontrer le 22 novembre au Cirque du Manège Christian Olivier et David Lafort. Et pour commencer, voici sa rencontre avec Romain Muller, qui était en première partie de Stéphane Echer le 27 novembre à l'Opéra de Reims.
On a quitté la ville et toujours pas vu la mer.
Merci Romain de m'accueillir dans cette loge.
Merci
et dans ce lieu quand même assez... mythique de Reims. On peut revenir un petit peu en arrière sur ton parcours. J'ai vu que tu as fait partie d'un groupe avec ta sœur.
Exactement.
Et là, tu es...
On remonte déjà très loin.
Et là, tu es maintenant en solo.
Oui.
Alors, pour le projet, souvent accompagné sur scène.
Toujours accompagné.
Et moi, j'ai trouvé une définition qui, tu vas me dire si ça te correspond. Artisan élégant et classieux d'une pop francophone moderne. Est-ce que ça te convient, satisfait, ou tu rajouterais quelque chose?
Bah merci, parce que c'est plutôt flatteur. Alors merci, ouais, c'est sympa ce portrait, j'ai l'impression que ça revient souvent, ce truc un peu... Des fois on me dit un peu dandy aussi. C'est marrant, parce que moi je me vois pas tellement comme ça. Et puis bah écoutez, c'est en fonction du regard des autres parfois qu'on...
Mais après c'est ce que tu vois, c'est ce que
moi,
tu dégages
et puis... Mais en tout cas, moi ça me paraît flatteur, donc bah merci.
Si on...
Élégant pas toujours, hein. Là c'est peut-être là quand je fais des concerts, hein. Vous m'avez pas vu le dimanche soir, donc quand je suis dans une série avec mon pyjama moche. Hein.
Ah, on veut pas tout voir, hein. On veut voir que ton meilleur côté.
Bon d'accord, ok. Je vais t'envoyer des photos,
on verra après, pour agrémenter peut-être l'interview, okay. Si tu veux. Et donc, j'ai écouté un peu le début, en fait, de surtout le EP, en fait, le premier qui a lancé ta carrière en solo. Et il y a une évolution qui s'est produite par rapport au dernier. J'irai principalement sur la voix. Est-ce que tu es en phase ou est-ce que pour toi, il y a eu d'autres évolutions que cette partie-là, ce qu'on entend de ta voix?
Par rapport au timbre de la voix?
Ouais, ou comment les placer?
Ouais, c'est vrai que... Alors, au tout début, c'est vrai que j'avais tendance... Alors, c'est un peu technique, là. J'avais tendance un peu, peut-être, à chanter un peu trop grave, ce qui fait que je suis un peu moins à l'aise. C'est purement technique, hein. Et puis, je me suis rendu compte, avec le temps, que quand j'utilise un peu plus ma voix de tête, hein, c'est-à-dire une voix plutôt aiguë, j'étais un peu plus à l'aise, un peu plus juste. Et... C'est la seule explication que j'ai, quoi. Je crois que c'est vraiment un truc purement de confort, quoi.
Donc c'était volontaire? Ou c'est force du temps, t'as constaté
que... Volontaire, ouais, oui et non, ouais, c'est plus avec le temps, avec l'évolution. Et puis souvent, on fait ce qu'on appelle des résidences, c'est-à-dire des semaines de répétition. Et puis, on a de la chance d'être parfois aidé avec des professionnels, hein, du métier, du chant en particulier, et puis qui m'avait orienté vers... C'était un axe... On m'avait proposé, on m'a dit tiens, essaye sur ce morceau-là de le chanter un demi-ton plus aigu. Et puis je me suis senti, c'est une petite révélation, je dis ah, effectivement, je suis un peu plus à l'aise. Et puis on a dit ok, dans ce cas-là, on va le tester avec celui-là et celui-là. Et puis à la fin, finalement, on a fait tout le répertoire comme ça. Donc effectivement, j'ai cette voix qui est un peu plus aiguë quand je chante que quand je parle. Mais de base, j'ai quand même pas une grosse voix comme ça.
Et au niveau de l'écriture en fait musicale et texte, tu fais tout seul ou j'ai vu que tu étais plutôt accompagné?
Ah non, je fais tout seul.
Ok.
Alors je fais, j'écris les chansons et je compose les musiques. Alors oui, alors effectivement, si tu fais allusion au dernier disque, effectivement, j'étais un peu plus aidé au niveau de la production. C'est vrai que c'est un peu, je suis un peu plus faible à ce niveau-là. C'est un autre métier en fait, hein, donc c'est ce qu'on appelle un réal. Là, j'ai appelé quelqu'un qui s'appelle Martin Murer, qui vient plutôt de la scène rap. Je trouvais ça amusant de faire cette expérience-là avec lui. Lui, où il a plutôt voilà, réarrangé les sons, on va dire, faire un travail voilà, sur d'orchestration, sur le son. Mais je reste ouais, compositeur et auteur de mes chansons, ça me tient à cœur. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs, que je joue sous mon propre nom, en fait. Sinon, j'aurais pris un nom de groupe. Ou,
comme avant.
Et effectivement, et dans mes groupes précédents, t'en parlais tout à l'heure, par exemple, le groupe avec ma sœur, c'est vrai qu'on composait tous. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à écrire, à parler sur les textes, à parler de choses un peu plus intimes, un peu plus personnelles, j'ai pris la décision de prendre mon vrai nom. Et puis ça me semblait assez logique de tout faire moi-même. J'essaie de faire le maximum moi-même, en fait, jusqu'à la limite. C'est-à-dire, bon, bah, les clips, effectivement, je suis pas vidéaste. Mais j'essaie de presque tout faire tout seul. Les mix, tout ça, j'essaie de...
Donc ce qu'on entend du coup, ça te reflète pleinement.
C'est l'idée, c'est que ça ressemble au plus possible. Ça ressemble exactement. En fait, je dis ça, mais on n'arrive jamais exactement là où on voudrait arriver. C'est ça le problème, c'est que c'est un peu un éternel problème. C'est sans fin. C'est-à-dire que même quand on a fini un disque, on est satisfait 3 minutes 30 et puis au bout de 5 minutes, on se dit j'aurais peut-être fait autrement finalement, et puis c'est trop tard. Et c'est pour ça qu'on fait un autre disque en fait. C'est pour essayer de rater de moins en moins en fait.
Ou s'améliorer de mieux en mieux.
Ouais, on peut. C'est les deux écoles, moi le mettre à moitié vide ou à moitié plein. Mais en tout cas, moi j'ai cette sensation là quoi. Mais c'est déjà presque comme une sorte de maladie quoi, presque. Ou à la fin, on se dit ok, on n'est jamais satisfait. Donc on recommence. Et on sait que de toute façon c'est fatal, on n'y arrivera jamais au bout. Hein. À 80 ans, j'y serai encore en train de chercher le bon son avec la bonne mélodie, avec le bon mot.
C'est peut-être bien, t'auras peut-être été vers aussi. D'autres styles musicaux aussi, peut-être.
Ouais, et puis c'est vrai que le plus difficile, c'est ça, c'est des fois c'est de trouver le mot juste aussi, parce que les mots ont aussi une sonorité, c'est ça qui est toujours un peu dans le parcours. Créer la musique, ça c'est assez rapide finalement, j'ai l'impression. Mais après, c'est de trouver le mot juste qui va bien sur la mélodie, quoi. C'est sur le combat, qui disait ça? Je sais plus, cette phrase qui est super juste, qui dit qu'effectivement, c'est un combat entre le son et le sens des textes. C'est-à-dire que des fois, on va trouver le mot qui serait le plus adéquat et qui finalement sonne pas bien quand on chante. Donc, il faut trouver ce juste équilibre entre le son et le sens.
C'est un peu la complexité, mais la plus grosse difficulté pour toi pour arriver à une chanson terminée.
Exactement, ouais. La musique, moi, je vais même être franc avec toi, franchement, au tout début, comme beaucoup d'artistes, je me prenais beaucoup la tête, je faisais des morceaux pendant des mois, j'arrêtais, je recommençais, je peaufinais. Maintenant, en fait, et tout ça pour me rendre compte que finalement, les morceaux qui marchent le mieux, c'est ceux qui m'ont pris 2 heures à faire. Donc au fur et à mesure du processus, j'ai fini par ne garder que les morceaux qui me prennent 2 heures. Si je mets plus de 2 heures à le faire, je jette une poubelle directement. Je me prends plus la tête. Alors peut-être, des fois, peut-être que je fais une erreur. Hein. Et ça m'est déjà arrivé hein, de finalement, plusieurs mois plus tard, de rechercher, de me dire ça c'était pas si mal. Et puis j'ai bouffouillé dans la poubelle, je le trouve plus, c'est fini.
Ouais, c'est le jeu de l'inspiration.
Ouais, mais c'est vrai que j'essaie de faire le plus instinctif possible, ou plus spontané. Et j'essaie de faire des petites captures d'écran en fait. Il faut que ce soit vraiment sur l'instant. Et à partir du moment où je travaille trop d'heures dessus, on n'est plus dans l'instant. On est dans un travail comme ça qui devient trop technique, trop scolaire. Et je préfère pas. Je préfère ne pas garder.
Et sur l'album donc Azur, qui est sorti ton deuxième il y a quelques jours, as-tu déjà des retours publics, presse?
Ouais, je suis content.
T'es satisfait quand même.
Ça se passe bien. Ah oui, non, mais je veux dire, bon, il faut quand même assumer suffisamment pour pouvoir le défendre sur scène. Mais en fait, les albums, je les aime de nouveau un peu plus. Une fois que c'est sorti, dans quelques mois, et après, souvent, je réécoute avec un peu de recul et je les aime de nouveau. Donc. Mais sur le moment, en fait, quand ça sort, on a tellement entendu, tellement quand on travaille sur le mix, c'est des détails. On travaille tellement voilà, sur le. C'est un travail de fourmi, quoi. Et en fait, on finit par presque plus aimer les morceaux. Mais c'est bon, ça y est, je suis arrivé au stade là où je les aime de nouveau, ça y est.
Et donc là, il y a 10 titres sur l'album. Et est-ce qu'il y a eu une temporalité sur les 10 titres, à la fois l'ordre, et est-ce que ça correspond chez toi, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme on disait tout à l'heure, personnelles, est-ce que ça correspond à un an de ta vie, un mois, une semaine?
Ouais, alors là, ça s'est vachement étalé, presque sur un an et demi. Il y a une grosse partie, décrite en vacances, d'où le nom Azur. Je parle beaucoup de vacances dans cette
histoire. Ouais, Bonifacio, notamment.
Entre autres. Et je parle beaucoup aussi quand même de des souvenirs d'enfance, de ma région natale, plutôt mon département natal, qui est les Vosges. Mm-hmm. C'est aussi beaucoup un disque qui est dans le souvenir. C'est pas de la nostalgie, hein, c'est pas tellement de la mélancolie, c'est du souvenir. Voilà. Donc j'essaie de trouver un peu le raccord dans tout ça, la jonction, quoi.
Et sur le titre que j'ai cité tout à l'heure, Bonifacio, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas le fantôme de Christophe qui est quelque part?
Alors, j'y ai pas pensé, mais pareil, ça je le prends très bien. Ça me va.
Ça fait partie des artistes que t'as écouté.
Ah oui, bah forcément, hein, Christophe, évidemment, c'est moi, j'aime beaucoup cet artiste. Enfin, j'aimais beaucoup.
Tu peux l'aimer encore.
Oui, enfin, je l'aime toujours, oui, pardon. Oui, c'est triste sa disparition, parce que c'est vrai que c'est un artiste qui a inspiré beaucoup d'artistes comme moi. Hein. Et c'est étonnant, parce que c'est vrai que c'est un artiste qui a réussi cette prouesse d'être à la fois populaire et à la fois hyper respecté dans les scènes dans lesquelles je viens, des scènes plutôt indie, où il y a un peu plus de... Voilà, je sais pas c'est quoi le mot juste pour décrire ça, mais j'ai l'impression que c'était un artiste en tout cas qui inspirait énormément de respect, qui était très apprécié dans le milieu. J'ai des amis qui ont eu la chance de rencontrer,
de travailler avec lui,
de connaître de près, et j'ai toujours eu ces mêmes impressions, quoi.
Et sur le titre Vent d'Est, on entend Brimbel et Jonquille, donc là ça marque vraiment d'où tu viens.
À l'est du Nord.
Ouais, bah là c'est vraiment précisément les Vosges, plus précisément ma ville d'Épinal, et plus précisément encore un village qui s'appelle Archette, et un petit coin qui s'appelle Bazin-Pré. C'est un petit coin qui est très joli. Faut vraiment être quelqu'un du coin pour connaître ce petit coin-là. C'est un village qui paraît complètement banal comme ça, à 10 km d'Épinal. Et il y a un endroit très spécial où en fait c'est un bord de Moselle où il y a carrément une plage de sable fin.
Ok.
Du sable fin, quoi, comme si t'étais à la plage. Et puis nous, c'était vraiment notre spot d'ado, quoi. Là, on allait fumer les clopes et nos premiers barbecues, nos premiers Heineken.
Début de la vie d'adulte.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça me rappelle les mobilettes, moi. Ça me rappelle ce que je pense à cet endroit-là. Je pense sur ma vieille Magnum Racing XR, là. À regretter, Bob.
Tu l'as pas gardé.
Ah, mais quelle erreur. Moi, je l'ai vendu pour me payer le permis. Ah, j'arrête pas, j'y repense souvent, ma Magnum Racing XR, elle était belle, elle était bleue, elle allait vite.
Et pour enchaîner sur... donc ça sort sur un label indépendant qui est Coco Machine,
ouais.
Cet album,
ouais.
Et c'est un peu ton deuxième bébé, avec ta compagne, si j'ai bien tout
exactement,
suivi.
Exactement, voilà, le label Coco Machine,
il y a d'autres artistes
que j'ai cofondé. Alors bon, je travaille pas seul, hein. En fait, avec Coco Machine, on fait la partie vraiment ce qu'on appelle édition phonographique, c'est-à-dire qu'on imprime les vinyles, on s'occupe de la promotion, on s'occupe d'autres artistes, évidemment. C'est aussi un autre plaisir que j'ai, c'est aussi d'aider d'autres jeunes artistes. Et en vieillissant, d'ailleurs, j'ai de plus en plus ce plaisir-là. Mmh. Et moi, je suis aussi chez une boîte qui s'appelle Alterca. Et en tout cas, effectivement, c'est un label que j'ai cofondé avec ma conjointe qui s'appelle Mélodie Boubelle et qui existe depuis 5 ans. Et on est super contents parce qu'à la base, c'était juste une affaire de copains qui voulaient s'entraider un petit peu. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est un peu plus structuré, c'est devenu un peu plus sérieux. Et j'en suis aussi très satisfait de ce parcours-là. Ça m'intéresse de plus en plus, d'ailleurs, cette casquette-là de label, en fait.
Et j'ai vu que, de temps en temps, il y avait des folles soirées à Rosé la Mirabelle, ça existe toujours?
Ça existera toujours.
Ah, ok.
Alors, plus précisément, c'est la Miraboubelle, parce que ma copine s'appelle Mélodie Boubelle, et ses parents font de la Mirabelle artisanale, et donc c'est la Miraboubelle. Et ça, elle commence à être connue, hein, la Miraboubelle. Malheureusement, il n'y aura pas de Miraboubelle 2024,
Ah,
ça, ça doit faire un scoop. S'il y a un scoop, messieurs dames, c'est celui-là. Il n'y aura pas de Mirabelle 2024.
Il n'y a pas eu beaucoup de Mirabelle cette année.
Il y a un problème de Mirabelle. Pourtant, il y en a eu beaucoup, pas si loin, mais dans ce secteur-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Petit problème logistique également. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la déception de l'année, quoi. Donc, on refera d'autres défaites, mais sans Mirabelle l'année prochaine. Voilà.
Et pour arriver au live, en fait, quelle est ta démarche, en fait? C'est pour toi la suite de l'album, ou tu veux vraiment présenter quelque chose de différent et instaurer un climat particulier?
Ouais, bah c'est la suite logique. C'est vrai qu'on a... Moi, quand on fait un disque, on fait toujours aussi en pensant un petit peu au concert. Et puis c'est la façon la plus, pour moi, la plus intéressante de défendre un disque. C'est-à-dire que quand l'album il sort, c'est sur Internet, c'est marrant, on reçoit des retours sur Internet, c'est gentil, on reçoit des messages, mais ça reste très virtuel, ça reste très... c'est pas très palpable, c'est... Puis moi, j'aime bien les gens, en fait, j'aime bien les êtres humains.
C'est bien.
Et en fait, c'est vrai que je suis toujours surpris de rencontrer des gens qui, des fois, qui connaissent mes chansons, et ça me touche énormément. Et puis c'est vrai qu'on les rencontre pas. Moi, je suis très solitaire, je travaille tout seul, je suis seul à la maison, dans mon petit home studio. Et puis il y a ce besoin-là, à un moment, de rencontrer les vrais gens, en fait. Et puis ça me dérange même pas de rencontrer des gens qu'elle pas aussi, tu vois. C'est intéressant aussi, des fois, et de se dire, bon, bah voilà, on est, au moins on échange, on se dit, ok, t'as aimé, t'as pas aimé. Et moi, ça me fait toujours plaisir, ouais, de rencontrer les gens après les concerts, quoi.
Et sur scène, donc là, ce soir, vous êtes deux, mais...
On est que deux, là, ce soir.
Ouais, avec Axel.
Ouais.
Qui est au clavier,
et au prod, ouais.
Et toi, tu es là?
Là, je vais faire guitare-voix.
Guitare-voix, cette fois-ci.
Alors, franchement, les concerts, il n'y a jamais un qui se ressemble. La plupart du temps, j'ai Julien Bouchard, qui est à la guitare aussi, qui joue bien mieux que moi. Et les formules sont un peu différentes à chaque fois. Des fois, je prends les bongos, des fois, je prends le clavier. Là, ce soir, je fais la guitare. Je vais varier les plaisirs.
Très bien. Et pour continuer, j'avais deux petites questions par rapport au Charabia Festival. Alors, je voulais connaître ta réaction quand on t'a proposé cette invitation à participer à ce festival événement.
Bah, moi, je suis toujours très content quand on m'appelle pour jouer, hein, ou que ce soit. Moi, je ne connaissais pas ce festival, mais je me rends compte que ça. Je me suis rendu compte que c'était un festival important ici à Reims.
Oui, ça devient très important. Oui.
En arrivant dans la ville, en fait, j'ai vu qu'il y avait des affiches un peu partout et tout. Je me suis dit, oh tiens, j'ai vu que c'était intéressant, parce que j'ai regardé un petit peu, donc du coup, sur Instagram, je voyais que c'était sur différents lieux.
Tout à fait.
Et ça a l'air super chouette. Il y a plein d'artistes très différents. C'est dommage, moi, on reste juste ce soir. J'aurais bien voulu voir d'autres spectacles dans d'autres lieux. Mais en tout cas, moi, j'étais super surpris et content surtout de jouer dans un lieu pareil, l'Opéra. Pour nous, en tout cas, qui venons des scènes qu'on appelle plutôt musique actuelle, c'est quand même pas très souvent, c'est pas courant pour nous de jouer dans ce type de lieux qui sont chargés d'histoire, d'une part, et puis qui sont même impressionnants d'un point de vue architectural. C'est-à-dire que quand tu un petit big gars comme moi qui fait un peu de musique et qui a vraiment l'habitude de jouer dans des lieux plutôt pas stériles, mais qui sont ce qu'on appelle des smacks, c'est des cubes dans lesquels on fait de la musique, quoi. Et là, c'est vrai que tu arrives devant, tu vois l'architecture, tu vois les statues, tu vois... Et c'est hyper intimidant, même.
Ah.
Et j'aime bien... Ouais, c'est hyper intimidant, parce que même quand on est rentré là, on se dit, ok, c'est chargé, on le sent. Et puis, je pense que voilà, il y a des grands artistes qui viennent ici, des grands chanteurs, des grandes chanteuses, et on se sent un peu petit, quoi.
C'est
trop cool, cette sensation-là, de se sentir petit face à un lieu, quoi.
Et tu
sans que ce soit écrasant pour autant.
Et tu l'as préparé d'une manière particulière par rapport à ce lieu, ou
non,
tu
bah
poses pas de questions et
non,
on verra bien.
Alors, après nous, quand on travaille les concerts, nous, on essaie d'imaginer de faire le spectacle de la même manière. Après, franchement, il n'y a pas une date qui se ressemble, il n'y a pas un lieu qui se ressemble.
Tant mieux.
En fait, finalement, on travaille en amont, mais finalement, dans ce travail-là, on doit sans arrêt s'adapter parce que les lieux sont différents. Parce que les sons sont différents, le public est différent, et c'est ça qui est cool dans ce taf-là, dans ce métier-là, parce que il faut sans arrêt s'adapter. Et on essaye à chaque fois de se battre pour que les gens essayent de nous soient avec nous, on essaie de les attraper, c'est la deuxième partie du métier, quoi. Mais non, moi j'étais très très fier d'apprendre que j'allais jouer ici.
Est-ce que tu te rappelles la fois précédente où t'as entendu ce mot-là, charabia?
Ouais, alors la dernière fois que j'ai dû entendre ce mot, ça devait être ma maîtresse, quoi. J'y ai pensé justement cette affaire. Je me suis dit, tiens, ouais, j'ai pas entendu ce mot-là depuis le CM1, CM2. Parce que ma maîtresse, elle disait beaucoup ça. Villemain.
Je te rappelle l'ascendant.
Si vous m'entendez.
Bah merci Romain.
Bah merci à vous.
Pour cet échange.
Avec plaisir.
Mais plus fort.
Avec corps dans mes plus forts, suite de ce hors-série Charabias Festival avec la rencontre de Jean-Luc avec Christian Olivier, le chanteur des Têtes Raides qui présentait le Ça et le Ça, un hommage à 12 poètes du Panthéon russe, c'était le 22 novembre dernier au Cirque du Manège de Reims.
Le Ça et le Ça, le Si et le Si, le Ça n'est pas le Si, le reste est soit le Ça, soit le Pas Si.
Alors, j'ai lu... te concernant, chanteur, guitariste, accordéoniste, parolier, compositeur, graphiste, qui retrouve-t-on aujourd'hui en concert?
Bah, on va retrouver un petit peu tout ça, quoi, parce que à la fois il y a les textes, il y a la musique, les textes, il n'y a pas que mes textes, puisque là effectivement, là ce soir, je vais proposer plus des textes d'auteurs et d'autrices russes de la période de 1917, donc. Par contre, il y a quelques... Autour de ces textes-là, il y a des chansons à moi, hein, donc effectivement, auteur, compositeur, des images graphiques aussi, puisqu'il y a pas mal de projections aussi, puisque ce projet est né aussi d'un... La première étape, c'était un bouquin, La Révolution au cœur, qui a été illustré par Les Chapelets, dont je fais partie graphiquement, avec mon collègue Lionel... Et donc voilà, ces projections, c'est de la typo, c'est des matières, c'est donc effectivement, voilà, c'est un peu tout cet univers, hein, le texte, la musique, l'image. Donc il y a tout ça.
Et pourquoi ce choix des poètes russes?
Bah, tu peux nous en dire plus? Ouais, bah le choix, c'est un choix. Je dirais que le choix déjà de travailler sur des textes d'auteurs, d'autrices, de poésie ou pas que de poésie, mais de poésie quand même beaucoup. C'est... J'ai démarré la musique avec ça aussi. Quand je me suis mis à faire de la musique et à faire du dessin aussi, et voilà, de l'image d'une manière générale, puisque c'est pas que du dessin, c'est de l'image, puisqu'il y a de l'image animée, il y a du volume, etc. Tout de suite, j'ai mis en musique des auteurs, du Prévert, j'avais travaillé sur Mayakovsky assez tôt. Donc à chaque fois, que ce soit moi dans mes projets solo ou avec Ted Red, pratiquement à tous les albums, il y a un invité, Boris Vian, les surréalistes, il y a eu Choupeau, il y a eu Artaud, j'ai travaillé sur Genet, j'ai travaillé sur... voilà, c'est tous ces gens-là, du Rimbaud aussi, bien sûr. Tous ces gens-là, ça a accompagné de toute façon, moi, mon écriture, mon parcours, quoi. Après Mayakovsky, pour les Russes, j'avais travaillé sur un texte de Bloch, Alexandre Bloch, qui s'appelle Les Douze, qui est un texte magnifique. Donc j'avais travaillé là-dessus. J'ai mis en musique aussi une pièce de théâtre de Marina Tsvetaeva, Le Gars. Donc voilà, au moment où j'ai démarré ça, il y avait un petit peu... je voulais rassembler tous ces personnages, on va dire, de cette période, qui est une période très particulière, qui est une période...
difficile, très difficile.
Très difficile, mais qui en même temps, culturellement, ça part dans tous les sens à ce moment-là, et pas que dans la poésie, dans le théâtre, dans la peinture, dans tout un tas de choses. C'est une période qui est à la fois tragique, on va dire, très compliquée, mais où il va naître tout un tas de choses, on va dire, quoi, à ce moment-là. Quoi.
Et comment tu as sélectionné ces poètes? Parce que j'en ai vu 12. Mmh. Comment...
12 plus 1, mais...
12 plus 1, ah, j'en ai vu 12,
c'est par compter. Il y en a 12 plus 1. Ouais.
Et comment... donc ces poètes déjà, et les textes de ces poètes, comment tu peux choisir si t'es...
C'est un peu, moi ça c'est quelque chose, donc je fouille quoi, voilà. Je prends un recueil, je commence à fouiller, et en général c'est... Il y a un déclic qui se fait sur un texte quoi, pour moi c'est... J'ai pas envie de dire que c'est pas moi qui choisis, parce que c'est moi qui choisis. Mais il y a un endroit où le texte, il me dit, vas-y, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et ça, c'est pas que dans les Russes, hein, c'est de manière générale. Quand j'ai pris Boris Vian, boum, je voudrais pas crever, pour moi, c'est ça qu'il fallait que je dise, quoi. Quand c'était un autre Genet, c'est de condamner à mort, quoi, voilà. D'autres auteurs, ça va être ça, voilà. Donc, je dirais que quand je prends un recueil, boum, ça va, je vais tomber sur le texte. Où je me dis, c'est celui-là, quoi. Donc en fouillant, voilà.
Donc l'aventure, elle a commencé il y a plus de 3 ans, par le livre.
Par le livre.
Et l'album.
Ensuite, la mise en musique,
voilà. L'album, voilà. Et si on regarde l'album, il commence par le titre du livre.
Du livre, effectivement, La Révolution au cœur. Qui a un titre un peu par rapport... C'est le début du spectacle aussi, hein.
Ok.
Qui est là, une formule ce soir, qui est une formule... que j'appelle un peu plus concert, parce que j'ai 3 formules un peu sur ce projet-là. Une formule qui est plus lecture, musicale, où là, il y a André Markovitch, je vais en parler un petit peu, qui est le traducteur avec qui j'ai travaillé, qui participe à ces soirées-là, où à la fois il dit lui des textes en russe, moi en français, on mélange un peu les deux langues, et puis lui raconte aussi l'histoire à la fois de... Il connaît parfaitement... beaucoup mieux que moi tous ces auteurs, autrices et tout, toute cette période, et puis la période, et puis il a une culture russe, bien entendu, il est russe au départ, et donc voilà. Donc il y a cette première formule, la deuxième formule que je vais jouer ce soir au manège, au cirque, là, j'ai une troisième formule qui est un peu plus, entre guillemets, théâtrale, où là il n'y a plus que vraiment les textes russes, et 2 comédiens, une danseuse et un comédien, j'ai réécrit un dialogue, autour de ces textes-là, et donc voilà, là c'est un truc un petit peu plus théâtral, on va dire, quoi, voilà.
Et pour toi, quelle est la finalité du spectacle? Tu t'arrêtes là ou tu vas trouver une autre forme, un autre format?
Par rapport à ces textes-là, ouais.
Non, par rapport au projet, ou si on peut appeler ça un projet, en fait.
Parce que
pour toi, il y a une suite après.
La suite, pour moi, c'est ce spectacle un peu, entre guillemets, théâtral, on va dire, quoi, voilà. La suite, s'il y en a une, ça sera ça. Le concert, lui, il continue à tourner, parce que c'est une manière aussi de faire découvrir ces textes-là, aussi, dans des situations différentes, à des gens différents aussi, puisque des lectures, il va y avoir plus des gens qui vont venir, un concert, il va y avoir un autre public aussi, le théâtre, ça va être encore autre chose, donc c'était aussi pour... Et c'est vrai que c'est une période où je trouve... Le projet était déjà parti avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. Hein.
C'était ma prochaine question.
C'était déjà lancé. Donc voilà, l'histoire m'a rattrapé un petit peu, on va dire, quoi.
Est-ce que ça a modifié des choses?
Pas énormément. Ce qui a modifié des choses, c'est que c'est arrivé qu'il y ait des endroits où les gens ne veuillent plus que je joue ce spectacle-là. Ce qui est une débilité, on va dire. Enfin, c'est, voilà, un amalgame de choses, etc. Mais enfin, ça, c'est pas que pour les Russes. Hein, mais voilà, où il y a des endroits où c'était bien parti pour que ce soit programmé. Et puis, il y a eu des gens qui ont considéré que, voilà, on pouvait pas dire du russe aujourd'hui parce que c'était, voilà, être allié plus ou moins à Poutine et à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, ce qui est dommage, parce que ces gens-là ont quand même combattu le pouvoir en place à l'époque. Ils sont morts pour beaucoup. Donc voilà, c'est un peu aussi une manière de faire entendre, résonner ces textes-là. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de, il y a quelque chose de très contemporain dans ce qu'ils racontent, tous ces gens-là. On retrouve tout un tas de sujets autour de la guerre, de l'exil, de tout un tas de choses qui se posent aujourd'hui, qui est en train de retrouver des choses qui se sont passées à ce moment-là. Donc pour moi, voilà, c'était... Et puis, il y a le côté, voilà, c'est une écriture aussi, moi, qui m'a parlé, en dehors de... On va dire, il y a le contenu, il y a ce qui est raconté, mais c'est aussi qu'est-ce que ces gens-là... voilà, artistiquement en tout cas, qu'est-ce que ça a raconté, on va dire, au niveau de la poésie, au niveau de tout un tas de choses. Et donc voilà, ça rentrait en tout cas moi dans ma sensibilité, on va dire. Et par contre, un sujet qui est intéressant, qui est vraiment important, c'est la traduction dans ces choses-là, puisque à un moment donné, c'est pas du texte en français. Moi, je parle pas russe au départ, je m'y suis mis un petit peu, ça m'intéressait. Hein. Je parle pas russe toujours, mais je connais l'alphabet, bref. Du coup, au moment où, pour la petite anecdote, il y a deux, trois textes que j'avais lus, notamment un de Mandelstein et un de Essénine. Et je savais que c'était ce texte-là, mais la traduction ne me convenait pas. Et la traduction, c'est un vieux sujet, enfin pour moi, puisque il y a très longtemps, au moment où je démarrais à bouquiner, voilà, j'étais tombé sur deux Dostoïevski à l'époque en librairie, et j'avais lu la première page de ces deux traductions différentes, et pour moi, ça racontait vraiment deux choses différentes, quoi. C'était vraiment, c'est pas possible, c'est pas le même bouquin, quoi. Voilà. Donc la traduction, c'est un sujet qui est passionnant, enfin moi qui me passionne. Et c'est vrai qu'ensuite, bah, j'ai fouillé, j'ai commencé à chercher, je trouvais pas. Et c'est là où j'ai rencontré André Markovitch. Donc on a commencé à... On s'est rencontrés, voilà, et ça lui a parlé. Et puis on s'est bien entendu assez rapidement, simplement, on va dire. Et donc il m'a dit, voilà, c'est à ce moment-là, il m'a dit, voilà, si tu trouves pas de bonne traduction, c'est à toi de le faire, c'est à toi de traduire. Je lui ai dit, mais moi, je parle pas russe, comment je vais traduire? Et il m'a dit, voilà... Ça, je rencontre ça en concert parce que je trouve l'histoire marrante, quoi. Il me dit, ben moi, je viens de finir de traduire une anthologie de poésie chinoise et je ne parle pas chinois, quoi. Et une fois qu'il m'a dit ça, ben, j'ai dit, ok, ben, je vais traduire, quoi. Bon, bien sûr, il m'a épaulé, on a travaillé, mais c'est vrai que c'est une réécriture, quoi. La traduction, c'est vraiment, c'est un sujet, enfin, je trouve passionnant, quoi, voilà, quoi.
Et musicalement, du coup, tu as travaillé comment pour...
Bah, musicalement,
pour accompagner ces textes.
Il y a toujours dans la poésie, de toute façon, il y a toujours la musique, elle existe cette musique, que ce soit dans la poésie russe ou autre, je veux dire, quand on met un poème en musique, c'est toujours un exercice, c'est voilà, faut faire attention, c'est quelque chose qui est... Parce qu'il y a déjà la musique dedans. On pourrait ne pas mettre de musique dedans, j'ai envie de dire.
Que ce soit juste lu.
C'est lu, dit, voilà. C'est des textes qui sont faits pour être dit en même temps. Ou lu, ou dit, mais... la musique, elle peut être en trop. Elle peut gêner, elle peut être redondante, elle peut être...
Voilà. Alors est-ce que par rapport à ton humeur du moment ou l'ambiance de la salle, du public, tu modifies la partie musicale ou c'est tout est calé avant?
C'est quand même calé, ça. Ouais, okay. Ça, c'est quand même calé, c'est plus après de l'interprétation, on va dire. Voilà.
Okay.
Là, l'arrangement il bouge pas beaucoup. Il y a une part d'impro quand même un petit peu, mais c'est quand même assez c'est écrit, on va dire quoi. C'est quand même assez écrit. Voilà, mais c'est vrai que cette mise en musique, c'est quelque chose qui est, encore une fois, sur le, par exemple, si t'es le condamné à mort, Genet, mettre en musique ça, c'est quand même compliqué. Enfin, je veux dire, c'est musical, tout ça c'est musical, au départ il n'y a pas besoin, forcément. Mmh. Donc faut y aller, faut être humble déjà, on peut pas, enfin voilà, c'est quelque chose qui est... Donc après chacun le fait à sa manière, hein. Il y a eu des très belles versions de tout un tas de choses, il y a eu aussi des mises en musique de poèmes qui ont un peu détruit le poème. Pas si des noms, on s'en fout, c'est pas le problème, mais voilà, c'est un exercice quoi. Ça c'est à chacun, je dirais après. Mais moi c'est quelque chose où je sais pas, quand je lis le texte, quand j'ai travaillé sur Prévert, puisque j'ai bossé aussi sur un spectacle Prévert avec Yolande Moreau, et la mise en musique de Prévert, pareil, voilà. Faut se laisser un endroit où on se laisse aussi porter par la musique du texte, j'ai envie de dire. C'est le texte qui nous dit voilà, ça va être ça. Prévert, j'ai pris une guitare et ça n'a pas été compliqué de mettre, parce que si on se laisse porter par le texte et la musique déjà de l'auteur, on va suivre le chemin qu'il faut.
Et du coup, les choix des instruments, comment ça s'est fait alors?
Bah ça s'est fait déjà à l'écriture des musiques, puisque quand je compose les musiques, voilà, je vais plutôt prendre un accordéon, plutôt prendre une guitare, mettre un peu de clavier. Et puis après, ça a été du travail avec les collègues. Et puis pour le disque, j'ai continué à travailler avec ma pote de musique, Edith Fambuena, avec qui j'avais déjà fait à la fois un album solo et puis le dernier Tetraed. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends comme voilà, cul et chemise, on va dire, pour aller vite, quoi. Il y a vraiment une symbiose de travail, une culture musicale et une manière de
vous avez pas besoin de vous parler.
Non, ça va assez vite en général. Quand on a une idée, les deux ont la même idée au même moment, on se demande pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, quoi, voilà.
C'est la magie. Je voulais savoir quel effet ça t'avait fait d'être invité sur ce festival, cet événement.
Ce que ça m'a fait, c'est que j'ai été enchanté, on va dire, quoi, voilà. Pour pas faire la petite blague du manège enchanté, mais en tout cas, j'étais vraiment enchanté quand j'ai appris ça. Et c'est vrai que sur ce projet-là, en plus, de pouvoir être présent, en tout cas, à ce festival, et je suis vraiment, ouais, voilà, encore une fois, ce soir, heureux vraiment d'être dans ce lieu et de pouvoir, en tout cas, présenter ce projet-là.
Et avant qu'on te propose cet événement, c'était quand que tu as entendu ce mot?
Le charabia.
Ouais, charabia, ce mot.
Charabia Festival? Le festival charabia?
Non, le charabia. Le mot.
Oh, bah, charabia, je crois que ça fait vraiment longtemps que je l'ai entendu. Ça doit dater, j'ai pas la date, mais c'est du charabia, quoi, voilà. Oh, putain, ça doit... J'ai pas de date, mais enfin j'ai l'impression que je connais ce mot depuis pratiquement tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est un mot, même gamin, je crois qu'on dit, c'est du charabia. J'ai déjà entendu ça, je crois, dans les écoles primaires, même. Je pense que j'ai dû avoir un prof qui a dû me dire ça, même un instit. Je dirais que mon instit de CM2, allez, on va dire ça. En CM2, je pense qu'il a dû me dire ça. Il devait vouloir me dire à moi que j'écrivais du charabia, quoi. Donc à mon avis, c'est dans ces eaux-là, quoi.
Merci Christian.
Voilà, avec plaisir.
Mais plus fort.
Le ça est le ça, le si est le si, le ça n'est pas le si. Le reste est soit le ça, soit le passé. Tout est soit le si, soit le passé. Tout ce qui n'est le ceci ni le cela, est ni le cela ni le ceci. Ce qui est et le ceci et le cela, est en soi-même soi. Ce qui est soi en soi-même peut être le ceci, mais pas le cela. Soit le cela, mais pas le ceci. Le cela est parti dans le ceci, et ceci est parti dans le cela. Nous disons Dieu souffla. Le cela est parti dans le cela, et le ceci est parti dans le ceci.
et nous n'avons nulle part d'où venir et nulle part où venir. Le cela est parti dans le cela, nous avons demandé où on nous chanta. Là. Le cela est sorti de là. Qu'est-ce que c'est? C'est le ceci. Le cela et le ceci et le cela. Le là et le cela et le ceci. Le là est parti dans le cela est parti dans le ceci, et le ceci est parti dans le là. Et nous regardions mais sans voir, or se tenait là-bas le cela et le ceci, le là et le cela. Mais maintenant, et cela, ceci sont là-bas. Mais maintenant, le cela et le ceci sont là. Nous nous rongeons, nous pensons, nous nous affrontons. Où donc est le maintenant? Le maintenant est là. Mais le maintenant est là-bas. Mais maintenant est là. Mais maintenant est là et là-bas. Le cela peut être ceci, le ceci et le cela. Le cela, le ceci, là-bas, là, l'être, je, nous, Dieu.
Christian Olivier avec le ça et le ça dans mes plus forts. Lui, il était en première partie de Christian Olivier le 22 novembre dernier dans le cadre du Charabia Festival. C'est David Lafort, rencontre au micro de Jean-Luc.
Adjectifs, on pourrait dire, qui te décrivent, j'ai vu ironique, absurde, irrévérencieux, frappadingue, déconcertant. Lequel est le qui te représente le plus? Peut-être pas dans la vie, mais sur scène.
Sur scène, j'ai droit qu'à un. Il y a quoi, irrévérencieux, frappadingue?
C'est pour lancer l'interview.
Ouais, allez, frappadingue.
Ok.
Pour le son.
Alors, tu as commencé il y a quelques années, un nombre certain d'années.
Ouais.
Parce que moi, je te découvre, en fait, avec plaisir.
Bienvenue.
Merci. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ton univers par quelques mots?
Eh ben, il
a évolué depuis le début, depuis 95, le premier album.
Ouais, ça a évolué, mais il y avait déjà les fondamentaux, hein. Donc, je sais pas, ça serait peut-être sensible et, je sais pas, un peu dingue. Ouais, je sais pas. Les deux, en tout cas. S'il y a deux mots, ça serait un contraste, ouais. C'est sûr, contrasté, peut-être. Je sais pas.
Et tes influences, elles ont évolué avec le temps, justement? Depuis que t'es...
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais. Musicalement, beaucoup. Parce que maintenant, là, ça fait déjà quelques années que j'écoute beaucoup de rap américain, en fait. Et ce que je faisais pas au début. Ouais. Et des influences... non, je sais pas. Forcément, oui. Je suis influencé.
Ou alors t'écoutes peut-être plus, tu viens de le citer, du rock, mais t'écoutes pas que ça?
Non, j'écoute aussi du jazz, de la musique baroque, de la musique contemporaine. Et puis j'écoute un peu tout ce qui passe. Quand je vois des chanteurs, des chanteuses, hop, j'écoute. par curiosité, donc par y a professionnel.
Pas, ouais. Donc il n'y a pas que les, par les textes, il y a aussi ce que racontent d'autres artistes.
Ouais, ouais, ouais.
Qui t'inspirent.
Bah ouais, tout m'inspire. Par exemple, il y a un Jean-Louis Coste, je sais pas si tu connais.
Pas encore.
Alors là, en matière de frappadingue, okay. C'est quand même très, très haut niveau, comme on peut dire, si on est dans le... Si on est un esprit sportif, c'est un très haut niveau de dinguerie. Jean-Louis Coste, c'est de l'art brut. Et puis, je sais pas, moi, Brigitte Fontaine, Philippe Catherine. Et puis, des sages comme des sauvages, j'aime beaucoup, qui ont d'ailleurs fait un duo avec MPL. C'est là que j'ai... Hein ?
Ça me parle.
Ouais, sages comme des sauvages, c'est vraiment super. Voilà, je sais pas.
Ton actualité, c'est un EP qui est sorti l'année dernière avec 5 titres.
Ouais.
Là, il a une couleur vraiment plus pop, même un peu dansante, électro.
Ouais.
T'es d'accord ?
Ouais, ouais.
Cool. Et sur cet album, t'as tout fait, en fait ?
Ouais. Enfin, le mixage, on l'a fait à deux avec Christophe, qui était déjà présent dans les deux albums précédents à réaliser avec moi. Mais oui, ça fait longtemps que je fais les arrangements. Ouais, le son, ça me passionne. Et puis là, il y a un EP qui va sortir en avril.
2025.
Là, ouais. Ouais.
Très bien. Et je me suis dit, les titres, s'il y a 5 titres, est-ce que c'est, il n'y a pas un jeu avec les titres? Parce qu'on peut presque faire une phrase avec les 5.
Ah, vas-y.
Ouais. Alors j'aurais dû décoller. Toi, moi, j'ai peur. Toc, 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 toc.
Ouais.
Non, c'était pas intentionnel.
Si, si. Mais enfin, non, c'est pas intentionnel. Mais tu l'as fait.
Si on passe, alors je l'aime beaucoup cette EP. Et
ah, voilà, chouette. C'est merci.
Beaucoup, beaucoup. Et si on passe à la partie live, en fait, je voulais savoir, le format que tu proposes ce soir, il est en duo. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport au festival ? Demande, ou c'est toi qui vas proposer cette version-là?
Je crois qu'ils ont vu au Festival d'Avignon avec Gilda, donc à la batterie, Gilda et Tevenard, et ça leur a plu cette version à deux. Ils nous ont voulu tous les deux, ouais. Il y a pas mal de gens qui me connaissent tout seul et qui ont vu à deux et qui préfèrent à deux. Alors je le prends pour l'instant plutôt bien. On verra quelle proportion ça prend. Si on commence à programmer que Gilda, bon là, je commencerai à me poser des questions.
Et ce format, il est acoustique aussi?
Ouais.
C'est ça? Comment tu l'as construit? Avec des vieux titres, des nouveaux ou un mélange de...
Ouais, c'est un mélange.
C'est un mélange de,
ouais,
de ta carrière.
Des vieux. Voilà. Un best-of.
Et un live pour toi, ça représente quoi? Par rapport à ce que tu veux proposer au public?
C'est
une extension de toi, c'est toi, c'est un personnage, c'est tu...
C'est pas vraiment un personnage, c'est peut-être plus... Ça serait fatigant d'être dans cet état tout le temps dans la vie. Mais ça serait quand même très plaisant parce que c'est des choses qui sont présentes en moi, mais à bien plus petite dose. Et là, pouvoir exagérer ce que j'ai en moi pendant une heure ou une heure et quart, là ce soir ça sera trois quarts d'heure, mais ce que j'aime bien, c'est taquiner le public, enfin jouer avec le public. Je suis comédien un peu contrarié, hein. Au départ, je suis comédien, hein. Et donc je fais un show, un spectacle. Tu verras.
Ok, avec plaisir.
C'est très différent de ce que tu as pu entendre, ouais, évidemment, parce que c'est tout acoustique. Oui.
Et donc tu vas chercher le public de temps en temps et il réagit toujours bien?
En général, oui. On va voir, hein, ce soir, tu me diras.
Ouais. T'as des attentes particulières par rapport à ce concert ici à Reims?
Non. Hmm? Enfin, c'est trois quarts d'heure, donc on va faire une liste plutôt avec des morceaux plutôt entraînants. Et J'espère que les gens vont chanter quelques trucs débiles que je vais leur proposer de chanter, on verra.
Ok. Par rapport au Charabia Festival, quel effet ça t'a fait de recevoir cette proposition de participation?
Eh ben, j'étais bien surpris, d'autant que d'abord, il avait été calé le dimanche, parce que dimanche, je fais les concerts lecture dessinée avec Charles Berberian.
Tu reviens dimanche, non?
Voilà, donc au départ, et puis bah, c'était chouette. Et puis du coup, demain, samedi, je serai là, mais sans avoir à jouer. Donc je vais pouvoir sortir parce que je joue énormément et je suis tout le temps dehors, mais je sors jamais. Et là, je sais pas quel est le programme de demain, mais je vais aller voir des concerts, des trucs.
Quand as-tu entendu ce mot pour la dernière fois, Charabia?
Je pense que c'est le festival qui me l'a rappelé. Ouais.
Ok, très bien.
Il est bien ce mot, ce nom de festival, ah, je suis bien.
Il n'y a pas que le nom, mais oui, je suis d'accord.
Et c'est Barcelone qui l'a choisi. Ouais, chouette nom.
As-tu écouté le dernier album de Super Bravo?
Je l'ai survolé.
Ok.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur le titre Un baiser, une bombe qui a été piqué par Super Bravo?
Alors, on va faire une reprise, c'est pas tout à fait piqué, hein, mais Super Bravo, bah, ouais, moi j'aime beaucoup leur premier, deuxième album. Celui-là, là, je l'ai pas encore beaucoup écouté.
La digue.
La digue. Et puis, ils étaient trois, maintenant, il et elle sont plus que deux. J'aimais bien qui est Julie aussi. Mais Super Bravo, ah ben là, ça fait vraiment plaisir. Quelqu'un qui enregistre et qui met sur son disque une chanson à toi, ça fait vraiment très plaisir. Tu te dis, ouais, waouh. Et puis un groupe que t'aimes bien en plus. Je sais pas si une reprise de Patrick Bruel me ferait le même effet, mais bon, on va savoir.
On peut pas savoir sans que ça n'ait pas été réalisé. Avant que ce soit réalisé, pardon.
Patrick, lance-toi.
Merci David, bon concert.
Ben merci à toi. Salut Jean-Luc.
Salut.
Mais plus fort.
Bâché, bouché, porché, fini, parti. Tant mieux, je suis bidon, crevé, les dents qui tombent au lit. Je me casse la tête, je me casse la fête, je me casse la tête. Je me casse la tête, je me casse la fête, je me casse la tête. Je m'écrète, je me défrète, je me la prête, je me décrète, bon. Je m'écrète, je me défrète, je me la prête, je me décrète, bon. Toc, 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 y'a quelqu'un. Toc, 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 toc. Toc 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 toc, y'a quelqu'un. Toc 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 toc. Ah mais je danse vers la mort content. Je bois mon sang, je mets des glaçons dans du citron. Shot 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 shot, y'a quelqu'un. Shot 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 shot. Ah mais je danse vers la mort content. Je bois mon sang, je mets des glaçons dans du citron. Shot 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 shot, du citron. Shot 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 shot. Allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake. Allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake. Allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake. Allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake, allez shake. J'suis poké poké tête au masque, j'suis tout couché cliché. J'suis tête des cucus canés dans ce rikiki flambibondé. J'suis bâclé taché mouché raclé torché raplaplati. Tant mieux j'ai le guidon tordu, la tombe au fond d'un pli. Je me casse la tête, je me casse la fête, je me casse la tête. Je me casse la tête, je me casse la fête, je me casse la tête. Je m'écrète, je me défrète, je me la prête, je me décrète, bon. Je m'écrète, je me défrète, je me la prête, je me décrète, bon. Toc 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 toc, y'a quelqu'un. Toc 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 toc. Ah mais je danse vers la mort content. Je bois mon sang, je mets des glaçons dans du citron. Shot shot shot.
shot 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 y'a quelqu'un shot 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 shot. Ah mais je danse vers la mort content. Je bois mon sang, je mets des glaçons dans du citron shot 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 du citron shot 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 shot. Allez shake allez shake allez shake allez shake allez shake allez shake. Allez shake allez shake allez shake allez shake allez shake allez shake. Allez shake allez shake allez shake allez shake allez shake allez shake.
Mais plus fort, c'était David Lafort.
Mais plus fort.
Et c'est avec Dionysos que se conclut l'émission pour aujourd'hui. Amis de la musique de tout poil, rendez-vous d'ores et déjà dans le prochain épisode de Mais plus fort. Il arrive très vite sur Radio Mono, RJR, Radio Primitive et Radio Campus 3.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau s'est transformée en pyrogravure.
When I was a child, Jedi. Oh, when I was a child, I was a Jedi. On s'électrocutait souvent lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps, et encore aujourd'hui et maintenant.
Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau s'est transformée en pyrogravure.
I was a Jedi.
When